VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination et organisation de l'église catholique à la base des dernières manifestations anti-Kabila revient à la charge. Dans un communiqué intitulé « L'heure de la vérité a sonné », il lance un ultimatum à Joseph Kabila, à son gouvernement et à la commission électorale nationale indépendante. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre partenaire dans la capitale congolaise.
D'ici au 31 décembre 2018, le comité laïque de coordination attend du président Kabila qu'il lève tout équivoque sur son probable troisième mandat, annonce cette structure de l'église catholique dans un document intitulé « L'heure de vérité a sonné ». Au gouvernement, le CLC demande de présenter un plan de décaissement pour rassurer l'opinion quant au financement des élections et d'appliquer toutes les mesures de décrispation édictées par l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités forcées à l'exil et l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les opposants politiques et les acteurs de la société civile. À la Commission électorale nationale indépendante, les laïcs catholiques demandent d'appliquer les recommandations de l'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, d'abandonner les projets d'utilisation de la machine à voter pour les scrutins du 23 décembre courant et de faire preuve d'impartialité dans le traitement des dossiers électoraux. À défaut pour ces institutions d'atteindre ces objectifs, chacune devra en tirer toutes les conséquences qui s'imposent et le CLC assumera ses responsabilités, prévient le comité dans le communiqué qui souligne qu'au-delà du 30 juin, le peuple congolais, toujours vigilant et mobilisé, sera dans l'obligation de se prendre courageusement et durablement en charge sur toute l'étendue de la République. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a été interpellé à l'aéroport de Bruxelles, Zaventem, avec un passeport falsifié, mais a néanmoins été autorisé à rester en Belgique pour y régulariser sa situation. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui à l'AFP deux sources proches du dossier, confirmant des informations de la presse. Un laissez-passer provisoire de 15 jours lui a été délivré pour qu'il puisse se mettre en ordre, a complété une autre source proche du dossier. L'interpellation a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que M. Katumbi revenait en jet privé d'un déplacement en Israël. Un gouverneur limogé et des gendarmes d'une région du sud du Tchad ont été interpellés jeudi suite à des accusations de violence contre un avocat et ses clients. Relaxé, a annoncé le ministre tchadien de la Justice après l'envoi d'une mission d'enquête du ministère de la Justice à Doba qui avait recommandé le départ du gouverneur et du commandant de gendarmerie de la région du Logone oriental dans le sud du Tchad. Le gouverneur Adam Nouki Charfadine avait été démis de ses fonctions le 6 juin par le président Idriss Déby Itno. Au Mali, nous allons au Mali maintenant pour retrouver notre correspondant à Gao, Boubacar Touré. Il nous fait le point sur la fête du Ramadan qui a eu lieu hier dans la région de Gao.
VOA Afrique en direct de Washington.
On retrouvera à Gao plus tard dans nos prochaines éditions. Le président syrien Bachar al-Assad s'est lui rendu vendredi à Tartous, dans l'ouest du pays, pour assister à la prière de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne musulman. La ville méditerranéenne de Tartous accueille une base navale russe, Moscou étant militairement engagée aux côtés du président Assad dans la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011. Depuis le déclenchement du conflit, M. Assad quitte très rarement Damas et ses sorties en public sont assez rares. La Colombie élit son nouveau chef d'État dimanche au second tour de la première présidentielle depuis la paix avec l'ex-guérilla des FARC. Une élection cruciale pour un pays polarisé par ce pacte que le favori Ivan Duque veut réviser. Le champion de la droite dure, arrivé en tête du premier tour, s'oppose à Gustavo Petro, ancien maire de Bogota. Le scrutin avait été marqué par une participation sans précédent de 53,9% quand habituellement moins de la moitié des 36 millions d'électeurs vont aux urnes. Les forces pro-gouvernementales au Yémen se préparaient aujourd'hui à prendre d'assaut l'aéroport de Hodeida au troisième jour d'une offensive visant à chasser les rebelles de cette ville portuaire stratégique. Ces troupes, soutenues par les forces de la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite, ont avancé jusqu'à 2 km de l'aéroport qui est fermé et situé à la limite sud de la cité. Pékin s'est dit aujourd'hui prêt à adopter des représailles immédiates en cas de droit de douane américain, alors que l'administration Trump s'apprête à dévoiler une liste de tarifs punitifs ciblant les produits chinois, faisant se rapprocher le spectre d'une guerre commerciale entre les deux puissances. Si les États-Unis adoptent des mesures protectionnistes unilatérales nuisant aux intérêts chinois, alors nous réagirons immédiatement et prendrons les mesures nécessaires pour protéger résolument nos droits et intérêts légitimes, a martelé Geng Shuang, le porte-parole de la diplomatie chinoise, lors d'une conférence de presse régulière.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'ancien chef du FBI, James Comey, s'est affranchi des règles en supervisant l'enquête sur Hillary Clinton avant la présidentielle de 2016, mais a exclu de poursuivre la candidate démocrate de façon impartiale, conclut un rapport officiel publié hier, dont voici les détails avec Irénée Hermanoumbo.
Nous n'avons trouvé aucune preuve montrant que les décisions des procureurs ont été influencées par des partis pris ou d'autres considérations, indique le rapport qui révèle par ailleurs que l'ancien chef du FBI, James Comey, s'est montré insubordonné. Le document susceptible d'être une bombe politique risque de ne pas avoir l'effet escompté par le président Trump, qui ne cesse d'affirmer que les démocrates se sont alliés avec des éléments du FBI pour aider Mme Clinton dans la course à la Maison-Blanche. James Comey est épinglé dans ce rapport pour avoir pris des libertés avec les procédures en vigueur à la tête de la police fédérale américaine. Deux agents du FBI travaillant sous ses ordres ont, selon l'inspecteur général du ministère de la Justice, montré une volonté d'agir officiellement pour effacer les chances de M. Trump. Dans une conférence de presse surprise en juillet 2016, M. Comey avait recommandé de ne pas poursuivre Hillary Clinton sur ses emails envoyés avec un serveur privé, tout en notant que l'ex-secrétaire d'État avait fait preuve d'une extrême négligence. À 10 jours du scrutin présidentiel, il a relancé de façon réticente l'affaire des emails en rouvrant l'enquête sur Mme Clinton.
La Colombie élit son nouveau chef d'État dimanche au second tour de la première présidentielle depuis la paix avec l'ex-guérilla des FARC, une élection cruciale pour un pays polarisé par ce pacte que le favori Iván Duque veut réviser. Le champion de la droite, dû arriver en tête du premier tour, s'oppose donc à Gustavo Petro, ancien maire de Bogota. Le scrutin avait été marqué par une participation sans précédent de 53,9% quand habituellement moins de la moitié des 36 millions d'électeurs vont aux urnes. On parle maintenant de sport avec du football. Coupe du monde de football en Russie. Deux formations africaines, le Maroc et l'Égypte, font leur entrée dans la compétition aujourd'hui, respectivement contre l'Iran et l'Uruguay. Le Maroc défie donc l'Iran dans le groupe B et ce sera à 15h GMT. Tout le royaume chérifien sur le continent est mobilisé pour la victoire, nous dit Sabrina Hakim à Casablanca.
Au Maroc, on ne rigole pas avec le football. Même pendant le ramadan, les terrains ne désemplissent pas et les joueurs amateurs s'entraînent dans la joie et la bonne humeur. Dans le quartier de Ain Sbaa, à Casablanca. Tous soutiennent avec ferveur les lions de l'Atlas.
Qu'ils soient des hommes et qu'ils soient des lions sur le terrain. Il faut qu'ils jouent pour les couleurs du Maroc. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Et Inch'Allah, il y aura une victoire.
Toutes générations confondues attendent avec impatience de voir jouer leur équipe en Coupe du Monde.
On attend qu'ils fassent des bons matchs à la Coupe du Monde et de bons résultats contre l'Iran et qu'ils atteignent la finale, Inch'Allah. Nous avons une bonne équipe cette année. On aimerait qu'ils jouent avec un bon esprit. On espère qu'ils passent au moins le deuxième tour. On aimerait que l'équipe nationale porte le drapeau du pays. Ça fait longtemps qu'on attend de les voir jouer en Coupe du Monde. On attend une équipe qui se donne à fond sur le terrain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon jeu sur le terrain. On espère aussi les voir bien représenter le Maroc en Russie.
Les Marocains espèrent voir les Lions de l'Atlas faire un beau parcours dans cette Coupe du Monde et ils y croient.
Uruguay-Égypte, ce sera 12 GMT à Ekaterinbourg pour le compte du groupe A. Les Pharaons, qui retrouvent donc la Coupe du Monde après 28 ans d'absence, compteront sur leur métronome Mohamed Salah, auréolé d'une magnifique saison avec le club anglais de Liverpool. Attention cependant à une blessure de l'ailier de 26 ans à la clavicule gauche en finale de la Ligue des Champions. Prochain journal dans 50 minutes exactement. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Jean-Roger Billon, à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.